Donc merci effectivement à Alice, Thomas et Gilles de m'avoir sollicité pour cette journée qui m'a effectivement permis de replonger dans ma thèse que j'ai réalisée il y a plus de 10 ans maintenant et que je n'ai pas eu l'occasion de publier. Donc peut-être que ça sera l'occasion dans le cadre de ce projet ICAR. Donc faut pas comment dire, hésiter à m'interrompre si je suis trop longue hein, pour que je ne déborde pas. Ok. Donc j'ai effectivement utilisé le terme d'archéologie et de monument virtuel dans mon titre. Hein. Lise a aussi utilisé ce terme puisque de formation en fait je suis archéologue et puis en fait ensuite j'ai dans le cadre de ma thèse viré ma cutie et je suis allée en sciences de l'information et de la communication et mon parcours explique en grande partie ce que je vais vous présenter ce matin. La particularité c'est que ma recherche doctorale je l'ai faite alors, à l'époque, faire une thèse de CIFRE en sciences humaines et sociales, ça paraissait complètement surréaliste, à tel point que mon école doctorale, à l'époque, avait refusé une thèse de CIFRE en sciences humaines et sociales, donc je le redis. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer une société qui a quand même joué le jeu de m'accueillir et de me laisser faire mes recherches, tout en, évidemment, travaillant quand même et en accompagnant les projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler entre 2005 et 2011. Donc, j'ai intégré un studio d'infographie qui faisait des restitutions en images de synthèse. C'était le début, ils développaient en fait une activité. Hein. Ils avaient déjà eu un ou deux projets. Et l'idée, c'était de développer une activité pour justement des dispositifs muséographiques qui devaient intégrer divers sites expositions, sites patrimoniaux, etc. Donc bon, voilà, j'ai mis quelques images de projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler durant 6-7 ans. Donc, ça m'a amené à travailler sur à peu près une vingtaine de projets. Et ce parcours professionnel, donc à la fois académique et professionnel, m'a vraiment permis d'accéder à la complexité des objets sur lesquels on travaillait. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée de faire une recherche doctorale, hein. Donc d'interroger ce à quoi finalement je participais, enfin ce à quoi je participais à développer. Donc, il s'agissait pour moi, et donc comme j'étais archéologue de formation, et essayer aussi d'avoir cette, comme le disait Lise, hein, l'idée, c'est vrai qu'il y a toujours tout un discours de l'innovation qui accompagne les projets numériques au sens large. Et donc, l'idée, c'était de replacer ça dans une perspective historiographique et donc d'utiliser un peu ma formation d'archéologue hein, pour essayer de retrouver l'historicité de ces pratiques infographiques. Donc, en me concentrant sur une communauté bien spécifique, hein, la communauté des archéologues, et puis très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas si fermé que ça, et que souvent, comme souvent avec les industries culturelles et créatives, il y a un brouillage des frontières entre les secteurs professionnels, les champs professionnels, etc., les disciplines. Et donc, l'idée, c'était voilà, d'étudier comment la pratique infographique, elle s'est implantée dans une communauté de pratique, et ça a permis de développer des usages sociaux, communautés de pratique que j'ai appelées l'espace public patrimonial, très modestement dans ma thèse. Et donc, j'ai réussi à remonter aux années à peu près 80, donc avec des projets entre 1980 et 2000. Ce qui m'a amené à faire une thèse et ce que je trouvais intéressant, c'est que dès le départ, ces projets infographiques hein, que je pouvais suivre soit en étant intégré donc dans le studio d'infographie pour lequel je travaillais, soit en suivant à l'intérieur de labo à Bordeaux, peut-être que vous connaissez, il y a notamment un laboratoire donc, qui s'appelle aujourd'hui Archéovision, hein, qui a été un des premiers, un des pionniers à intégrer l'infographie, la 3D, les images de synthèse dans ses travaux. Et ce que je constatais, c'est que tous ces outils, ils avaient pour viser hein, de vraiment, enfin, ils se positionnaient en rupture avec ce que Élisée Véron appelait l'autarcie communicationnelle des organisations scientifiques, hein, c'est-à-dire le fait que dès le départ, souvent, ces images, elles étaient produites dans une visée communicationnelle. Alors, on parlait de grand public, sans forcément détailler qui étaient ces publics, mais il y avait vraiment cette idée de s'en servir comme objet communicationnel et donc. Ce que je constatais, hein, c'était ce que j'ai appelé une multiplication des espaces publics patrimoniaux, avec comme ça une diversité de communautés qui se mettaient en place. Et ce qui était intéressant, c'est que fusionner dans un même outil, en réalité, à la fois les fonctions de documentation, ou certains appellent documentarisation, à la fois des fonctions de valorisation, donc de mise en valeur de ces objets patrimoniaux, Et comme le disait Jean d'Avalon, hein, par exemple, quand il travaillait sur les multimédias au musée, ça fait partie de l'antiquité de ces objets-là et de ces outils, hein. Donc un entrecroisement du technique, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de discours, effectivement, technophiles ou technophobes, pardon, monsieur le veto, du technique, du culturel et du social, et souvent avec une seule explication, une seule visée qui était voilà, les possibilités du technique, mais on n'interrogeait pas ce qui se passait d'un point de vue culturel et social, et ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de ma thèse. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse donc la généalogie des usages de ces machines à communiquer. Donc, le terme de machine à communiquer, je l'emprunte à Pierre Schaeffer. Donc, c'est un ouvrage relativement ancien, mais parce qu'il est intéressant, parce qu'il encapsule la notion de simulacre qui est au cœur pour moi de ces outils-là. Alors, je ne vais pas commencer à parler de Baudrillard, etc., mais c'est vrai qu'il y a cette notion. Voilà, de simulacre et d'un effacement du réel que l'on vit pleinement aujourd'hui à de nombreux niveaux. Donc, ce que je vais essayer de retracer, c'est d'abord, et quand on se situe, quand on essaye de travailler sur l'innovation technique et la façon dont l'innovation technique finalement s'installe dans des communautés de pratique et créer des usages sociaux, on a un certain nombre d'histoires parallèles hein, qui vont voilà, se mettre en place au sein de différentes communautés et qui vont finir par se rencontrer. Donc, j'ai essayé de retrouver les premières expériences qu'on pouvait repérer de représentation de ces fameux, ce que j'ai appelé ensuite les monuments virtuels et j'y viendrai plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est représentation graphique à l'aide de logiciels infographiques, de ce qu'on appelle assez communément la 3D, donc ça apparaît dans les années 60-70. Donc c'est relativement ancien hein, par rapport à nos objets qui apparaissent dans les années à la fin des années 80, seconde moitié des années 80, de la décennie 80. C'est relativement ancien, mais les premières expérimentations, c'est surtout de l'abstraction. C'est-à-dire que, voilà, les premiers tests, alors il y a une image qui est très connue, on va faire des damiers, on va expérimenter évidemment des sphères, parce qu'il faut pouvoir représenter des structures sphériques. Et puis il y a tout un travail aussi sur la lumière, évidemment. Et à partir des années 80, on voit qu'il y a une stabilisation hein, d'une pratique, d'un usage, ce qu'on peut appeler un cadre de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces outils-là finalement comme on utilise la photographie. C'est ce que Debré appelle l'effet diligence, c'est-à-dire le fait qu'un média incorpore l'ancienneté des médias qui l'ont précédé et du coup au début va complètement mimer ce que les médias précédents réalisaient. Donc on va utiliser ces outils-là pour vraiment représenter en trois dimensions des artefacts techniques et culturels. Et finalement, quoi de mieux que le patrimoine pour aller expérimenter des choses déjà en son temps, la photographie, elle a évolué grâce à la mission héliographique. Où on a envoyé donc des photographes à travers la France faire un inventaire photographique des monuments. Ça, l'avantage, c'est que les monuments, ça bouge pas. Donc, quand le temps de pose était très très long, ben, on pourrait expérimenter la photographie. On retrouve finalement exactement les mêmes choses du côté des images de synthèse. Donc voilà, on voit apparaître comme ça une façon d'utiliser ces outils infographiques. Pour représenter des scènes, on retrouve des choses, des inspirations du Quattrocento, de la Renaissance, etc. Voilà le mythe de la perspective. Et à partir de ça, ce cadre de fonctionnement qui se fixe, les cadres d'usage vont se multiplier, se diversifier. Et moi, ce que j'ai étudié, c'est celui, le cadre d'usage au sein de la sphère patrimoniale, mais on pourrait l'utiliser en allant voir du côté du cinéma, etc., et tout ce qui est création de décors. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur ces éléments-là, alors ce que je disais tout à l'heure au café, je me rappelle avoir quand même pas mal souffert, galéré pour trouver ces éléments archivistiques, en fait, en réalité. Et ça s'est fait souvent par relation interpersonnelle, le fait d'être intégré dans un studio d'infographie. M'a permis d'échanger avec des infographistes qui avaient voilà, un certain âge déjà à l'époque, et donc qui ont connu les débuts, l'évolution des logiciels. Et c'est vrai que souvent, j'ai réussi à repérer des projets par le fait d'être à un salon, d'échanger avec des producteurs de dispositifs muséographiques, d'intervenir dans des salons, etc., qui m'ont signalé, ah, mais moi j'ai des VHS, moi j'ai des captures d'images, etc. Mais il faut imaginer que, évidemment, je n'avais pas de fichiers numériques. Je n'ai jamais eu accès à des fichiers numériques avec ces images-là. Donc j'ai reçu des VHS. Il fallait que je trouve des systèmes. Alors heureusement, comme j'étais dans cette agence où quand même il y avait quand même pas mal d'informaticiens qui m'ont quand même aidé à transférer ces VHS sur des fichiers numériques, en fait, tout simplement. Mais voilà, ça s'est fait. Et donc l'inventaire que je vous propose, c'est plus un inventaire à la Prévert qu'un inventaire exhaustif, hein. Il est vraiment le fait et le fruit de ces pérégrinations, voilà, et de discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de personnes qui ont été, voilà, dont certains ont participé à ces premiers projets. Et donc ces fameux cadres d'usage, donc ils vont se multiplier, se diversifier, et puis il va y avoir quand même toute une phase de circulation, de diffusion de ces progrès techniques, hein, donc de cette fameuse innovation. Déjà, ça accompagne tous les discours d'innovation, notamment les salons Imagina, donc qui n'existent plus aujourd'hui, hein, mais qui ont existé dans les années 90. Et les salons Imagina étaient portés par l'INA et Monte Carlo et avaient justement pour fonction de diffuser, de faire connaître tous les développements autour de l'image numérique, de l'image. Alors à l'époque, on appelait pas forcément ça l'image numérique, hein, l'image 3D, l'infographie. Donc c'est vrai que les actes des salons Imagina et tous les textes qu'on peut retrouver qui ont été diffusés à ce moment-là sont souvent une mine assez intéressante. Il y a un certain nombre de sites web, je pense au site web, l'INA a encore un site web qui s'appelle Mediaport, qui a pour objectif justement de recenser cette évolution de la 3D en France. Il y a eu un programme de recherche d'ailleurs qui avait été porté par Pierre Hénon, par l'École des arts décoratifs, l'École nationale des arts décoratifs à Paris, qui s'appelle IST 3D, sur l'histoire de la 3D et de l'image de synthèse en France. Et puis il y a aussi eu quelques expositions qu'on peut repérer. Donc et on peut aussi avoir recours à des travaux. Là, je prends une citation d'Ondine Bréau, qui est une chercheuse, donc plutôt chercheuse qui s'intéresse à l'histoire de l'image et qui a pas mal théorisé sur l'image numérique, l'image de synthèse. Et j'aime bien cette citation où elle compare. Alors, moi, je pense que enfin voilà, je vous ai donné des raisons beaucoup plus prosaïques sur le fait d'utiliser des monuments pour tester la capacité des logiciels infographiques. Elle a une explication sans doute plus enlevée que moi, hein. Elle parle d'âme. On aurait cherché à donner une âme à l'ensemble des images dites de synthèse. C'est vrai qu'on n'utilise plus trop le terme d'image de synthèse. Âme qu'elles auraient perdue, semble-t-il, au moment de leur fabrication. De plus, cette démarche aurait ouvert la voie à leur légitimation, ce que je pense, à mon avis, plus certain. Alors, j'ai essayé de typologiser mes différentes expériences que j'ai pu repérer, à chaque fois en mettant entre guillemets ce qui me semble la dimension la plus forte, mais en réalité, j'aurais pu utiliser les trois termes que je vais vous présenter pour les différentes expériences que j'expose. Une des premières expériences qu'on peut repérer, elle a été réalisée sous la direction de Jean-Claude Golvin. Donc Jean-Claude Golvin, il était effectivement rattaché à Archéovision et au Centre de recherche archéologique de Bordeaux. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir connaissance de ces travaux-là. Donc ici, on a une représentation du temple d'Amon-Ré à Karnak, une proposition de reconstitution réalisée entre 1987 et 1989, à l'époque, avec l'aide du mécénat d'EDF, qui en fait mettait à disposition ses logiciels de modélisation de centrales nucléaires. Donc on est quand même très loin des sites archéologiques. Donc il y a une convention les liée avec le CNRS. Quoi de mieux que de travailler sur l'Égypte, hein? L'Égypte, c'est quand même. Ça porte en soi tout un imaginaire, une série de fantasmes qui permettent facilement de communiquer après, ensuite, autour de ces expérimentations. Il faut imaginer qu'à l'époque, ces calculateurs, les calculateurs étaient dans les locaux d'EDF, donc les chercheurs voilà, revenaient de leurs fouilles archéologiques et allaient dans les locaux d'EDF assister la modélisation en trois dimensions. Alors, quand on voit les captures qu'on peut recueillir aujourd'hui, qui existent encore aujourd'hui, donc qui sont issues notamment de ce dossier d'archéologie donc de 1989, où on a déjà des termes comme les technologies du futur font revivre le passé. C'est vrai que quand on voit que déjà les termes d'un passé retrouvé, d'une immersion dans une réalité, alors qu'on voit bien quand même que les rendus sont plus que sommaires, hein, aujourd'hui on est quand même habitué à des choses avec le cinéma, etc., qui sont bien, bien au-delà de ce type de rendu, on voit à quel point la technologie, elle encapsule cet imaginaire de machine à remonter le temps et la capacité comme ça à retrouver le passé. Donc je vous ai mis quelques citations de ces chercheurs, hein, des archéologues, pour le coup, qui racontaient comment ils ont mené ce travail là, et ce que j'ai, voilà, il y a des termes comme la conception assistée par ordinateur a accompli un miracle à Karnak. Ils utilisent des images de synthèse pour faire circuler le visiteur à l'intérieur du temple, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est plus modeste, mais dès le départ, toute la rhétorique de ces expérimentations va utiliser le fait que ça permet de tester des hypothèses, de valider des hypothèses. Et en fait, quand vous lisez aujourd'hui, il reste 5 minutes. Oula, oui. Alors, je me dépêche. Donc, autre type de proposition, des expériences architecturales, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elles émanent là d'architectes, mais encore une fois, j'aurais pu dire archéologique ou j'aurais pu dire autre type de proposition. Donc, la proposition qui a été faite sur Carnac, elle a eu quand même un fort retentissement à l'époque, et ça a entraîné d'autres chercheurs à faire aussi des expérimentations. Donc Christian Sapin, plutôt archéologue médiéval, qui fait sa proposition sur la cathédrale Saint-Nazaire à Autun. Donc là, c'est un travail avec de mémoire TDI, donc Thomson. Donc à chaque fois, on a quand même un gros mécénat technologique et un gros soutien technologique. Et autre type de proposition, les envois de Marseille, ça renvoie aux envois, ça renvoie aux envois, que faisaient les architectes qui étaient envoyés faire leur Grand Prix de Rome au XIXe siècle. Hein. Donc là, c'est tout le travail de Paul Quintran, qui était architecte, soutien avec l'INA. Et cette fois, c'est des logiciels, le logiciel CATIA de Dassault Systèmes. Donc à chaque fois, on a quand même des gros, gros opérateurs technologiques. Un retour, enfin une expérience informatique là, elle émane d'un informaticien, Christian Père, qui s'est illustré en réalisant ce travail de reconstitution de la Major Ecclesia de Cluny. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Christian Père, il était alors élève ingénieur, il est allé démarcher IBM, grâce à son démarchage, son film a connu une énorme a été extrêmement comment dire, une énorme retombée médiatique. On le trouve encore, je vous ai mis on le trouve sur Vimeo, je vous ai mis un lien. Donc en 91, là encore, hein, des rendus encore extrêmement sommaires, mais on voit que la lumière apparaît, on commence à travailler sur l'atmosphère, sur la lumière, c'est extrêmement important dans les logiciels infographiques, évidemment. Le travail de lumière, ça va contribuer à cet effet d'immersion. Et au Salon Imaginet 93, il y a même une expérimentation de téléprésence. Donc j'ai retrouvé cette citation de Philippe Kehoe, grand chantre de l'image, enfin de la pensée virtuelle, on va dire, qui raconte cette expérience de téléprésence. Donc avec nos casques de réalité virtuelle, on s'inscrit complètement là-dedans. Hein. Donc où on a alors ce que je trouve amusant, c'est que il y a oui, le père Di Falco, voilà, qui avait un casque et qui rencontrait à distance donc Dominique Vintin, conservatrice du musée à Cluny. Donc ils étaient une à Cluny, l'autre à Monte-Carlo, et ils se rencontraient grâce à des casques qui ressemblaient à ça, quand même. Ouais, donc on est quand même loin de nos casques, du casque qu'on a vu tout à l'heure, hein, mais faut rappeler que c'était quand même ça la réalité virtuelle à l'époque. Alors c'est vrai que cette expérimentation, elle a eu un succès médiatique, mais du coup ça a entraîné aussi un certain nombre de critiques. Hein. On s'expose à la critique aussi, évidemment. Critique de Christian Sapin, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc qui nous explique que finalement, bon, c'est très bien cette expérimentation, mais que Christian Père, bah, il est quand même informaticien, donc en fait, il n'a pas les données archéologiques de dernière main pour pouvoir faire une reconstitution viable. Mais plus étonnamment, on a aussi des critiques qui viennent. Françoise Holzbonneau est une théoricienne de l'image de synthèse et qui viennent aussi critiquer le rendu. Alors là, ça va être le rendu, c'est une image glaciale, etc. Donc, des critiques de deux sphères différentes et qui montrent bien que ces histoires parallèles, elles ne se sont pas encore rencontrées en réalité. Les informaticiens n'ont pas encore travaillé avec les archéologues, ni avec, par exemple, des artistes qui pourraient amener ce rendu un peu plus graphique, parce que, en fait, il est surtout question de travailler sur les logiciels. Petite citation de Régis Debray qui rappelle dans cet article de 99 sur bah, un projet que je vais vous présenter. Voilà, l'image forte du premier centenaire de la Révolution, ses bâtiers en fer, la tour Eiffel, celle du second, probablement aussi coûteuse, s'est défaite en pixels. Et le projet dont il parle, c'est ce projet, donc 1789, un film produit dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française. Et c'est pour ça que j'appelle ça des expériences politiques. Mais en réalité, elles sont toutes politiques, elles sont toutes informatiques, elles sont toutes archéologiques. Tout est entremêlé. Là, c'est vraiment politique dans le sens où, voilà, la mission bicentenaire était quand même fortement portée d'un point de vue politique, évidemment. Un budget considérable à l'époque. Ça a été présenté comme le premier film incorporant de la 3D, premier film avec image de synthèse incorporée de la 3D, mais produit sur 35 mm, parce que pas de support numérique, évidemment, pour présenter et diffuser ce travail par une société française qui a été pendant très longtemps un fleuron de l'image numérique en France, de l'image de synthèse, Ex Machina, qui avait été créée par TDI. Donc TDI, c'est Thomson et l'INA. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point tout se mêle, en fait, le développement de logiciels infographiques et des gros soutiens financiers de la part notamment du ministère de la Culture. Et ce film, il a été diffusé pendant 6 mois aux Tuileries. Alors, je suis preneuse de toutes données que vous ayez sur, si vous en avez, sur la façon dont il a été reçu, parce que c'est très difficile de trouver, pour le coup, voilà, de suivre comment il a été, il a pu être, enfin, reçu de la part des publics. Je sais que, l'équipe d'historiens qui a travaillé dessus avait demandé d'apparaître dans le générique sous un pseudonyme et ne voulait pas apparaître en leur nom, ce qui prouve, quand même, à l'époque, la frilosité qui pouvait, accompagner ces projets. Aujourd'hui, ça ne serait évidemment plus le cas, mais je pense que voilà, les critiques qui avaient été faites autour de qui ont été faites autour des différents projets montrent à quel point ces communautés à l'époque ne se rencontrent pas. Et puis à partir des années fin 90-2000, effectivement, les communautés archéologiques, informaticiennes, et puis aussi avec des infographistes, hein, vraiment spécialisés sur l'infographie, vont se rencontrer. Et moi, c'est ce que j'appelle le monument virtuel, hein, c'est-à-dire cette construction d'un mythe patrimonial contemporain. J'utilise le terme de mythe au sens qu'utilise Barthes pour parler de la déesse, par exemple, c'est-à-dire un objet voilà, qui enferme, qui a à la fois du sens pour les archéologues, les informaticiens, mais pour les publics, a un sens qui transcende ce sens-là. Donc, le monument virtuel, c'est un objet frontière qui va être adopté progressivement par une communauté de plus en plus large. Je fais juste un petit rappel, les expérimentations. On a des rendus graphiques très sommaires. Alors quand j'utilise le terme d'amateur, c'est-à-dire voilà, c'est l'archéologue, l'informaticien, qui vont tester plus ou moins, comme on l'a vu. En fait, en réalité, ils sont pas vraiment pour le coup en autarcie, hein, mais on a des rendus graphiques très sommaires. Et puis ensuite, on a des acteurs industriels qui arrivent, IBM, TDI. On va avoir un soutien financier de l'État de plus en plus important. Et l'objectif, ça va être de travailler sur la recherche de réalisme, la recherche atmosphérique, la lumière, etc. Donc les supports médiatiques ne vont plus être des rendus fixes, par exemple, des images fixes, mais on va créer des films qu'on va diffuser dans des espaces dédiés. Et puis, voilà, à partir des années 2000, évidemment, ces outils-là quand même se démocratisent. Du coup, la sphère patrimoniale, elle va s'affranchir des industriels et il va y avoir des espaces de rencontre avec des laboratoires qui vont se créer justement autour, permettant à des infographistes, informaticiens et archéologues de se rencontrer, de travailler collectivement ensemble. C'est à ce moment-là, pour moi, se met en place ce statut mythologique, hein, on en est encore aujourd'hui dedans avec des supports médiatiques. Qui exploite toutes les possibilités des industries culturelles et créatives. Pour les premiers adoptants, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ils adoptent ce genre de technologie? C'est parce qu'ils voient un avantage. Je peux tester mes hypothèses. Je suis jeune informaticien, ingénieur. Je me fais connaître et je montre ma capacité à utiliser un logiciel. Il y a des cadres de pensée préexistants. En archéologie, on a toujours, enfin, l'archéologie va avec une représentation du monument quand même. Je dois couper. Je dois couper. Donc je vais quand même conclure. J'avais dit qu'il fallait me couper, donc c'est le jeu. Ce que j'appelle, c'est cette idée que la science historique technicisée, c'est-à-dire qu'elle est. C'est la capacité qu'ont les publics à croire et à avoir confiance en fait en la capacité des sciences historiques informatisées à proposer une image donc de ce fameux passé retrouvé. Alors même que quand on est de l'autre côté, on sait bien toute la complexité qu'il y a derrière ces images, mais pour les publics, ça se donne comme une image aisément compréhensible parce qu'il y a tout cet effet d'histoire, de rendu, etc. Et ce qui est intéressant, et je terminerai juste là-dessus, c'est de relativiser. François Hartog parle beaucoup, par exemple, de présentisme, le fait que les commémorations à outrance nous inscrivent dans un perpétuel présent. En fait, quand je fais référence ici au dernier ouvrage de Jean d'Avalon, que je trouve assez inspirant sur cette question-là, si on utilise ces monuments virtuels, c'est aussi parce que quelque part ils activent, ils dynamisent ce qu'on pourrait appeler une patrimonialisation médiatique, certes pour nous inscrire par rapport à des hommes et des femmes du passé, mais aussi pour que ces choses, ces monuments, ils puissent continuer à exister dans le futur. Et je m'arrêterai là.
On peut prendre deux ou trois questions si vous en avez. Évidemment, on pourra y parler par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite se lancer. N'hésitez pas à vous présenter, qu'on se connaît, mais pour l'enregistrement. Merci.
Bonjour Jessica, Clément Nerville, président de la société Une bande salade, qui travaille sur le métadata des musées.
Avec un certain nombre de collègues ici présents.
En fait, c'était vraiment une question toute simple. Quelle était la société dans laquelle je travaillais à cette époque-là?
C'était la société Axis Images qui, malheureusement, et ça fait partie aussi des problématiques quand on travaille sur ce sujet-là, a connu une liquidation judiciaire il y a 2 ans. Pareil, pour retrouver les archives, ça va être compliqué.
Merci. Une autre question peut-être?
Je m'insiste sur cette idée d'une esthétique d'un passé retrouvé avec cette notion de mythologisation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi aujourd'hui, qu'on voit encore à ce statut, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quand même autour de ces images 3D de patrimoine quelque chose de beaucoup plus prospectif, d'invention, de monde alternatif, qui donc, je ne sais pas si ça trouve sa place dans sa fonction de mythologie. Ou est-ce que c'est inventer des nouvelles mythologies? Je sais ça, j'invente le demain qu'il faut que le.
C'est toujours très difficile quand même pour un chercheur d'avoir cette posture un peu prospective, parce que bon, je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, je suis pas trop rentrée dans le détail parce que c'est vrai que résumer des années de recherche finalement en 20 minutes, c'est toujours très. C'est un exercice assez fastidieux. Ce que j'avais pu repérer et ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a des recherches graphiques justement qui essayent de s'affranchir de cet hyper-réalisme, par exemple, qu'on voit encore au cinéma, etc., pour d'autres logiques, évidemment, hein. Je pense qu'il faudrait l'écrire. Ça reste à écrire. Ça peut être un projet sur l'évolution des. J'avais pas mal travaillé dessus dans le cadre de ma thèse, mais ça reste à creuser l'évolution des styles des styles graphiques, mais c'est vrai que pour représenter des monuments, des sites archéologiques, des sites du passé, voilà, on est quand même, on a quand même encore beaucoup de mal à se défaire de, oui, ce que j'ai appelé l'effet d'histoire, c'est-à-dire, voilà, d'aller peupler de petits bonshommes les sites, voilà, de montrer des usages, parce que ça montre des usages aussi, c'est parlant. Enfin, c'est comme l'usage des maquettes en réalité dans les musées, hein. Vous avez toujours des maquettes avec des petits bonshommes qui vous montrent la taille. Bah, c'est pareil en fait. Donc, on a quand même encore du mal à s'affranchir de ça, je pense.
Et peut-être juste une remarque par rapport à ce qu'on évoquait sur le monde des métavers, on se retrouve exactement dans la même difficulté entre une transposition à l'identique du réel, mais dans un autre contexte avec d'autres contraintes, et on est dans cette bascule à envisager des espaces totalement virtuels ou totalement très, très épurés, ou alors à coller à la réalité, alors qu'il y a une nouvelle grammaire de style à envisager. Et ça, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on travaille dans le cadre du métavers des musées, mais pardon. Je crois qu'il y a...
Non, mais du coup, je laisse ça. Attends, je suis à genoux.
N'hésitez pas à vous présenter pour l'aude. Ouais.
Oubrebet, du musée de l'école Polytechnique, partenaire de projet Métavers. Je voulais savoir si, à l'époque, au-delà de la reconstitution historique et de faire remettre, il y avait déjà la préoccupation des cas d'usage et de ce qu'on en sait, notamment des publics. Quelle était la destination de voilà pourquoi on refait ces comme il n'y allait pas.
Oui oui mais c'est une très bonne question et en fait à laquelle j'ai pas enfin c'est difficile d'apporter une réponse parce qu'en fait quand on lit la littérature d'époque il y a quand même eu des ouvrages il y a des dossiers de revues c'est souvent quand même de la revue de vulgarisation on sent que la revue académique présentait ces travaux là dans un texte académique classique. Ben en fait, ça y répond pas. Il y a une vraie problématique de comment on présente ses travaux, comment donc de fait on va vers ce fameux grand public qu'on appelle tout le temps le grand public et on dit toujours ah c'est des images pour le grand public. D'accord, mais comment, par qui et qui sont les grands publics? Moi, je sais pas qui c'est les grands publics. Et ça c'est un point complètement aveugle de ces premiers projets. On se dit c'est des images donc les publics ils vont comprendre. Puis on sait pas vraiment qui sont les publics et puis on sait pas vraiment dans quel support ça sera parce que voilà je vous ai présenté des dossiers de revue des images fixes il y a eu des expositions il y a des films hein, le support prioritaire ça reste le film quand même à l'époque hein, parce que voilà il y a pas d'interaction il y a pas de choses pour comme ça mais c'est pas du tout interrogé c'est on sent que c'est quand même encore un objet pour tester les possibles de la part de l'archéologue mais aussi de la part de l'informaticien enfin je dis l'archéologue et l'informaticien mais voilà et pour les industriels c'est je teste mon logiciel et j'essaye de voir jusqu'où je peux aller en réalité pour ensuite le commercialiser et en faire voilà. Et parce que ce que je vous ai présenté, les TDI, etc., ils ont racheté tous les gros logiciels ensuite de 3D. Et aujourd'hui, vous n'avez plus... Voilà, les gros logiciels de 3D, je crois qu'il y en a aujourd'hui deux. Non, je ne sais plus. Au plein, mais voilà.
Alors, si je prends la casquette du musée, malheureusement, c'est valable pour les premiers projets. Mais on est encore... on navigue encore un petit peu à vue, même si on a beaucoup avancé sur les services des publics. On a quelques études, on en voudrait encore plus pour préciser justement cette démarche et avoir des éléments d'aide à la prise de décision qui s'appuient sur des éléments objectifs en remontée des publics. On essaie de l'intégrer, les choses évoluent, mais il y a encore beaucoup à faire. Ça sera l'objet de peut-être d'échanges sur les prochaines présentations. Merci beaucoup, Jessica.